La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, est toujours en compagnie de ce magnifique film des Torre Scola, Une journée particulière, et avec deux invités spéciaux, Diane Bracco et Arnaud Duprat. Bonjour Diane.
Bonjour Magali.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence chacun en études hispaniques. Diane Bracco, vous êtes à l'université de Limoges et Arnaud Duprat, vous l'êtes à l'université de Rennes 2.
Oui.
Alors, c'est la raison de cette invitation et de ce dialogue à trois voix, eh bien, c'est la parution de cet ouvrage collectif consacré donc à ce monument du cinéma, Une journée particulière du réalisateur Ettore Scola italien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Diane, sur ce projet d'ouvrage ?
Alors, c'est une initiative que m'a proposée Arnaud il y a quelques mois maintenant, parce qu'il se trouve que nous avons travaillé ensemble autour d'un séminaire consacré au cinéma méditerranéen Espagne-Italie. Et nous sommes hispanistes, mais nous avons tous les deux aussi cet intérêt pour le cinéma italien, une certaine italianophilie. Et Arnaud m'a proposé ce projet d'ouvrage qui accompagne l'adaptation théâtrale, une récente adaptation théâtrale par la metteur en scène suisse Lilo Bor, d'une journée particulière. Et ce projet d'ouvrage visait à étudier le dialogue entre le film, qui est la grande œuvre d'origine, et cette adaptation, à travers différents articles, différentes études proposées par des collègues issus d'horizons divers, afin d'étudier les facettes du film, de l'œuvre et les facettes du dialogue.
D'accord. Et alors, ce dialogue est-il fructueux, Arnaud, entre le film, ce monument, et les différentes adaptations qu'il y a eu de cette pièce, de ce film en pièce ?
Alors, un dialogue fructueux, oui, surtout que c'est assez... Ce qui est intéressant dans le cas de ce film, c'est qu'il a été... c'est donc un film italien qui a été ensuite adapté pour le théâtre, mais tout d'abord en France. Et il y a donc eu cette passerelle entre les deux pays qui n'a pas disparu, qui ne s'est pas rompue au fil du temps.
Et alors, pour quelles raisons ? Première, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que ce sont les scénaristes du film qui ont eux-mêmes adapté le film en pièce ?
Alors, ça s'est fait à la demande de Jacques Weber.
D'accord.
Qui a été le premier à reprendre le rôle de Marcello Mastroianni sur scène en France. Et c'est lui qui a eu l'idée, enfin qui s'est dit en voyant le film, que ça pourrait faire une bonne pièce de théâtre. Donc, il a rencontré Ettore Scola à Paris. Il lui a demandé, enfin il lui a proposé d'adapter donc le film pour le théâtre. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Ettore Scola a été d'accord. Il a demandé à sa femme Gigliola Fantoni de l'adapter pour la scène. Et c'est Huguette Atem qui a fait la traduction en français.
D'accord. Et quels sont les liens de Scola avec la France ?
Il a des liens très... c'est un des cinéastes italiens les plus francophiles. En plus d'être francophone, il a consacré des films à l'histoire de France ou à des références littéraires françaises comme Le Capitaine Fracasse, qui a donné lieu au film donc Le Voyage du Capitaine Fracasse, La Nuit de Varennes.
La Nuit de Varennes, oui.
Donc voilà, il s'est intéressé à la France, à la culture française et à l'histoire française. Et il a tourné avec beaucoup d'acteurs français. On peut penser évidemment à Fanny Ardant, on peut penser à Michel Piccoli, on peut penser à Emmanuel Béard. Il y a eu un grand nombre d'acteurs français qui...
Jean-Louis Trintignant.
Voilà, Jean-Louis Trintignant, mais la liste est très longue, donc j'ai peur d'en oublier beaucoup si je me lance dans une tentative de
liste exhaustivité. Oui, oui. Donc des liens importants entre le cinéaste et la France, et donc une commande de la part de Jacques Weber pour une adaptation spécifique de ce scénario en pièce de théâtre.
Oui, en tous les cas, une proposition qui a été reçue assez, de manière assez enthousiaste et assez positive apparemment, en tous les cas qui s'est concrétisée. Et qui a donc vu le jour sur scène, donc en France et en français avant la langue italienne.
Voilà. Et depuis, c'est une pièce qui ne cesse d'être jouée.
Oui, en tous les cas, de manière assez régulière. Depuis la première mise en scène de Françoise Petit au CDN de Lyon.
Centre dramatique national de Lyon.
Voilà, qui était dirigé par Jacques Weber à l'époque. En 1982, et puis ensuite, au fil du temps, en 1998, cette fois-ci dans une mise en scène de Jacques Weber, avec toujours Jacques Weber dans le rôle masculin. Et puis après, 2013, à Christophe Lidon, jusqu'à donc L'île aux bords, en 2023. Alors ne citer que les mises en scène les plus importantes.
Les plus importantes. Si on revient au projet d'ouvrage dont vous nous avez parlé, enfin vous avez commencé à nous parler, Diane Bracco, est-ce qu'il est question de la pièce dans l'ouvrage à paraître donc aux éditions universitaires de Dijon?
Oui, absolument. Du film, évidemment, de la pièce. Et l'idée, c'est à la fois d'envisager le film comme un point de départ, donc dans ses spécificités cinématographiques, de voir aussi dans quelle mesure le film possédait déjà un potentiel cinématographique qui a ensuite été exploité par les metteurs en scène de théâtre qu'Arnaud a évoqué. Et bien sûr, un focus est mis, si je puis dire, sur la pièce qui nous intéresse, l'adaptation, la version qui nous intéresse de L'île aux bords, puisque nous avons à la fois des chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur cette adaptation et puis des entretiens également réalisés avec des membres de l'équipe artistique, avec L'île aux bords elle-même, avec les comédiens, avec les productrices, outre des entretiens qui ont également été réalisés avec Jacques Weber, afin d'englober, disons, tout ce processus d'adaptation depuis son point de départ cinématographique jusqu'à ses aboutissements théâtraux.
Et est-ce que c'est le visionnage, enfin plus que le visionnage, la fois où vous avez assisté, voire même les multiples fois où vous avez assisté à la représentation dans la dernière version, donc l'adaptation via la mise en scène de L'île aux bords, est-ce que cela vous a permis de mieux comprendre le film ou est-ce que ce sont deux objets séparés ?
Je crois qu'il faut les envisager comme des objets séparés. Alors évidemment, il y a des ponts qui se tendent nécessairement. Par exemple, le film est en soi théâtral d'une certaine manière, parce qu'on a dès le départ cette règle des trois unités du théâtre classique, un même lieu, un même temps, une journée, hein, c'est annoncé dans le titre même de l'œuvre, et une unité d'action autour de la rencontre entre ces deux êtres. Évidemment, donc c'est un fondement pour les adaptations théâtrales, mais je crois qu'il faut ensuite vraiment les recevoir chacune par rapport aux spécificités du langage qui est mis en œuvre, pour ne pas forcément être tenté d'apprécier l'œuvre théâtrale en fonction du modèle premier. Parce que L'île aux bords tente des choses, fait des propositions qui sont propres au langage théâtral, qui sont propres à sa vision, qui sont propres à ce qu'elle a souhaité exprimer. Elle a souligné elle-même qu'elle n'avait pas souhaité revisionner le film avant de se lancer dans la mise en scène. Les comédiens, eux, ont fait le choix de le faire alors qu'elle les avait dissuadés, elle avait tenté de les dissuader de le faire. Donc c'est aussi intéressant dans ce processus de voir dans quelle mesure il y a une certaine émancipation qui s'opère par rapport au modèle original et qui est en plus un chef-d'œuvre du cinéma italien et du cinéma universel.
Donc vous ne l'avez peut-être pas dit, mais le choix des deux interprètes dans la dernière version théâtrale, il s'agit de Laetitia Casta pour le rôle qui fut interprété par Sophia Loren dans le film, et de Roche Dizem pour celui de Marcello Mastroianni dans la réalisation de Scola.
Oui.
Et vous avez pu avoir des entretiens avec chacun de ces deux comédiens et Jacques Weber également.
Tout à fait. Oui, qui sont transcrits dans l'ouvrage.
Voilà, ils seront présents dans l'ouvrage. Et à travers les entretiens, en fait, on retrace l'histoire de cette œuvre en partant du film, puisque le tout premier entretien, c'est la reprise de l'entretien d'Ettore Scola lui-même par Jean Gilly, donc un entretien qui avait déjà été publié, mais c'était difficile de ne pas le faire figurer dans notre publication. Et puis après, donc, on remonte le temps avec donc, un entretien avec Françoise Petit, avec Huguette Atem, qui est donc la traductrice du texte de Giulia Fantoni. Et puis voilà, donc Jacques Weber jusqu'au comédien de la mise en scène de 2023 de L'île aux bords.
Et comment Jacques Weber vit-il cette prospérité de la pièce avec des mises en scène différentes, des acteurs différents?
Ben, je pense qu'il en est très, très heureux et très fier, puisque effectivement, c'est grâce à lui que c'est de lui que tout est parti, puisque bon, c'est une pièce qui a été joué en France à plusieurs reprises, qui a été aussi joué à plusieurs reprises en Italie, mais un peu partout dans le monde. Donc ça a été vraiment une... Il y a une projection autour de, de cette pièce qui est peu commune par rapport à d'autres films qui ont été adaptés au théâtre. Là, on est quand même face à un cas un peu particulier, c'est-à-dire que la pièce, d'une certaine façon, s'est mise à vivre comme une œuvre autonome, quasiment. Ce qui n'est pas le cas des autres films qui ont été adaptés au théâtre.
Vous pensez auxquels, par exemple?
Beaucoup. En fait, c'est la majorité. Bon, on a essayé de recenser un petit peu les films qui ont été adaptés au théâtre et qui ont été repris par la suite. Il y en a assez peu. Il y a notamment des films de Bergman. Mais par rapport à la totalité ou à la quasi-totalité que nous avons recensé des films adaptés au théâtre, en règle générale, la mise en scène qui est faite à partir de ces films n'est pas reprise par la suite.
C'est une expérience unique, voilà, liée à un désir de metteur en scène de théâtre.
Voilà.
Ouais. Quand vous parlez des films de Bergman, donc il s'agit de plusieurs metteurs en scène de théâtre qui s'y sont intéressés, hein, dans les dernières années.
Oui.
Van Hoff, Julie Deliquet.
Oui.
Vous voyez quelqu'un d'autre ou
Non, de mémoire. Ouais, il faudrait la liste sous les yeux.
Oui, il faudrait la liste sous les yeux, oui. Est-ce que Scola lui-même s'est intéressé au théâtre en tant que spectateur et peut-être metteur en scène? Est-ce qu'il a, dans son travail d'artiste, est-ce qu'il a fait des mises en scène de théâtre, voire même des mises en scène d'opéra?
Alors, dans ses films, il y a une importance qui est donnée au théâtre. Plusieurs films parlent du théâtre, dont notamment celui que je citais tout à l'heure, Le voyage du capitaine Fracasse. Et ça me fait penser justement à l'entretien avec Jacques Weber, puisque Jacques Weber trouve que c'est un cinéaste éminemment théâtral. Notamment, il cite le lien entre l'intime et l'histoire, qui est le cas dans Une journée particulière et dans d'autres films, c'est-à-dire qu'il y a très souvent dans les films de Scola une intrigue qui est assez intime, c'est-à-dire ramenée à quelques personnages, mais en même temps il y a en toile de fond l'histoire qui, bien évidemment, présente ou a des conséquences directes sur l'histoire des personnages.
Sur l'histoire des personnages, oui, effectivement. Vous disiez La Nuit de Varennes, on est dans, voilà, la grande histoire de France. Voilà. Et là, nous sommes évidemment avec Une journée particulière dans la grande histoire italienne. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contexte du film, Diane?
Oui, alors c'est une journée particulière à deux titres, hein, puisque c'est le jour de la visite d'Hitler à Rome le 6 mai 1938. On connaît l'histoire de l'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et donc nous plongeons dans le quotidien d'une famille italienne, une mère asservie par un mari fasciste, asservie par sa famille, et tous se rendent au défilé organisé pour célébrer la venue d'Hitler, et elle reste seule à la maison pour assurer les tâches ménagères quotidiennes. Et en cette journée particulière, elle fait la connaissance d'un voisin qui est Gabriele, donc son nom, elle, est Antonietta, jouée par Sofia Loren, et Gabriele, son voisin, joué par Marcello Mastroianni, dont on découvre qu'il est un intellectuel homosexuel, et donc ils se rencontrent en cette journée particulière, et va naître une relation faite de beaucoup de délicatesse, une complicité qui se tisse petit à petit, et cette journée particulière, c'est aussi, on permet, disons, la rencontre de deux solitudes, donc d'une femme asservie, victime de sa condition à l'époque du fascisme, et d'un homme qui est lui-même, dont la fin du film révèle qu'il est envoyé al confino, comme on dit en italien. Donc voilà, deux personnages marginaux dans le contexte de l'époque qui vont unir leur solitude sur une journée.
Et une rencontre improbable.
une sorte de couple qui
fugace,
voilà, hein, éphémère, une journée, mais qui va leur offrir à chacun une forme de libération, à elle surtout, hein, puisqu'elle s'émancipe d'une vision que lui a inculquée le fascisme. Hein, c'est une femme au foyer qui adhère à la vision fasciste. Et Gabriele, comme intellectuel qui, lui, n'est pas fasciste, lui ouvre la porte vers autre chose.
Mais elle-même également lui ouvre une petite fenêtre.
Absolument, hein, voilà. ouais.
Dans sa solitude, elle lui permet de passer ses dernières heures dans son appartement, mm-hmm. avec moins de une chape de plomb qui s'est légèrement assouplie, pourrait-on
dire. Absolument, ouais.
On va écouter le premier extrait.
Nessun romano mancherà allo storico evento che succederà il patto di collaborazione tra due razze create per intendersi.
Alors, ce premier extrait, Arnaud Duprat, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
C'est le tout premier plan, après les images d'archives, dans le film, où on voit l'immeuble dans lequel se passe tout le film, en fait. Puisque, comme l'a dit Diane tout à l'heure, c'est une rencontre qui se passe sur une seule journée, et de deux personnes qui sont exclues, de la fête populaire qu'est la visite d'Hitler et de cette rencontre avec Mussolini. Et donc c'est dans ce tout premier plan, on voit la concierge qui est un personnage important du film.
Madame Cécilia.
Voilà, puisqu'elle contrôle, elle surveille en fait tous les habitants de cet immeuble qui est dans lequel il y a beaucoup d'appartements, et on la voit déployer un drapeau nazi. Et donc il y a un mouvement de caméra très sophistiqué qui nous amène de la vision de ce drapeau jusqu'à la fenêtre d'Antonietta, où on voit Antonietta qui s'apprête à réveiller ses enfants et son mari pour qu'ils aillent au défilé.
Quand vous écoutez cet extrait, sans voir les images, Diane, Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a frappé votre oreille d'auditrice?
Alors, la première remarque que je me suis faite, c'est ce silence, quasi-silence inaugural, qui est le contrepoint du vacarme familial lorsque le personnage joué par Sophia Loren éveille toute la famille et tout n'est que cris, injonctions adressées à la mère de famille qui est en fait l'esclave du mari et des enfants. D'une part, le bruit de la cafetière à l'italienne aussi qu'on entend et qui est une sorte de symbole aussi d'une culture italienne basée sur le café. On la voit d'ailleurs un petit peu plus loin. Elle finit ce qui reste des tasses du petit déjeuner familial parce qu'elle-même n'a pas eu le temps de se préparer son café matinal. Donc ce simple bruit m'a aussi évoqué la condition de cette femme au foyer, comme je le disais, asservie à sa famille. Et également le son du ménat. Le piaillement du ménat, donc qui est cet oiseau qui va permettre la rencontre entre Gabriel et Antonietta qui lui échappe et qui va provoquer, qui est l'élément déclencheur de cette rencontre et de cette journée particulière.
Et puis vous parliez de contrepoint, il y a aussi le contrepoint entre le début de l'extrait où on entend les discours officiels au balcon entre Mussolini, Hitler, etc. Et puis le silence du petit matin qui présente à cette journée de liesse, de festivité qui va être organisée à Rome.
Tout à fait, oui, c'est une ouverture qui nous place à la fois sur le plan de la grande histoire. On a évoqué donc la visite d'Hitler, effectivement, avec ses images d'archives et ses sons d'archives. Cela préfigure aussi la radio que l'on va entendre tout au long du film. Et c'est un élément d'ailleurs très important qui a été repris dans l'adaptation de L'île aux bords, et qui fait vraiment partie de tout le dispositif artistique mis en place pour convoquer l'époque. Et en même temps, donc, le plan de la petite histoire des individus qui sont mis en scène avec ces bruits du quotidien qui permettent aussi de créer un climat qui nous fait rentrer dans la fiction et qui sont combinés aux images très frappantes qu'Arnaud a commentées.
Et tous ces bruits aussi qui permettent de rentrer dans l'intimité à la fois de l'immeuble et puis des différentes familles, parce qu'on entend les réveils, on entend les gens qui ont l'air mécontents d'être tirés des bras de Morphée, les volets qu'on est en train de remonter. Enfin, il n'y a pas de dialogue, mais la bande sonore, la bande son est très riche.
Absolument, oui, elle peint une ambiance en fait, dès le départ, une ambiance, un environnement quotidien, un environnement familial, et qui nous ouvre la porte de l'histoire que l'on va nous raconter. Et on assiste au réveil de la femme au foyer et comment cette journée va démarrer avant que tout le monde se mette en route pour le défilé, sauf les deux personnages qui en sont exclus.
J'ai repensé aussi, bien sûr, à Fenêtre courte d'Hitchcock.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais là, l'immeuble est un personnage en soi, dans le film d'Ettore Scola, comme chez Hitchcock d'ailleurs. Mais ce qui est marqué aussi dans ce premier plan, c'est aussi le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'intime ne peut pas exister dans cet immeuble, puisqu'il y a un vis-à-vis, puisqu'il y a la possibilité, comme l'a dit Diane tout à l'heure, d'entendre ce qui se passe dans les espaces intimes que sont les appartements. Et bien évidemment, là, ça nous dit tout de suite quelque chose de l'organisation de la société du fascisme.
Et cet immeuble, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors ce qui semble le plus évident a priori, c'est que cet immeuble, c'est une sorte de métaphore spatiale du système d'oppression du fascisme qui enserre les êtres, qui enserre en l'occurrence Antonietta et Gabriel pour des raisons différentes. Il y a tout un jeu autour du voir, effectivement, Arnaud, tu l'as mentionné, mais qui montre que finalement aucune liberté n'est possible dans ce système où chacun épie l'autre. Et le personnage associé à l'immeuble qui incarne ce regard constamment porté sur les autres et le jugement que porte la société sur les autres, c'est ce personnage de la concierge qui épie Antonietta et les échanges avec le voisin antifasciste. Donc l'immeuble est très important pour ces jeux qu'il permet. Il y a aussi tout un jeu autour des fenêtres, des portes, des seuils, ces espaces de passage qui en même temps vont permettre les circulations d'Antonietta, de Gabriel et d'un espace à l'autre, d'un appartement à l'autre. Et donc paradoxalement, cet immeuble, il permet aussi, il est le lieu qui va permettre cette libération partielle en tout cas de ces deux êtres qui vont se rencontrer. Donc à la fois, de mon point de vue, un symbole d'oppression et en même temps une possibilité de libération une fois qu'il a été déserté par tous les autres habitants et en dépit de la présence de la concierge.
Comme vous dites, en dépit de Madame Cécilia. Je me suis toujours demandé à quoi correspondait, puisqu'on est au tout petit matin, donc la fin de la nuit, nous sommes avec une ou deux fois, on voit un monsieur qui descend les escaliers, donc qui visiblement est un habitant, mais un baluchon sur l'épaule et la jette, le contenu de ce baluchon, dans une grande benne. Et on voit ça, quand on regarde un petit peu en perspective, on voit une deuxième benne dans une autre cour d'immeuble. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des détritus, des gravats, ou ce sont des choses qu'il vide d'un appartement ? Est-ce que vous avez...
Alors la question, on peut se la poser, le film ne nous donne pas la réponse. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit que quand quelqu'un descend les escaliers, tout le monde... peut le voir descendre les escaliers, puisqu'en fait la cage d'escalier est tout à fait visible, puisqu'elle n'est composée que de vitres, en fait il n'y a pas de mur. Et ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est purement fasciste, c'est-à-dire que tout le monde peut contrôler tout le monde, tout le monde est dans la mesure de connaître la vie a priori intime des autres habitants de l'immeuble et donc de pouvoir les dénoncer si tout d'un coup il y a un comportement qui peut être qui peut éveiller des soupçons.
Merci en tout cas pour ce premier épisode consacré à ce film, avec votre double regard de co-directrice et co-directeur de cet ouvrage collectif et ce jeu entre le film et la pièce dont nous allons reparler incessamment sous peu. Merci à Diane, merci à Arnaud.
Merci à vous.
Au revoir à toutes et à tous.